VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes jeudi pour une présidentielle à haut risque en raison du boycott mené, annoncé par l'opposition et de l'organisation dans la hâte du scrutin après l'invalidation en justice de la réélection du chef de l'État, Uhuru Kenyatta, dans un climat politique délétère marqué par de nombreuses manifestations de l'opposition implacablement réprimées par la police. La commission électorale IEBC a su être prête d'un point de vue technique et logistique après avoir été accablée par la Cour suprême pour sa gestion du scrutin invalidé. Mais son président Wafula Chebukati, de plus en plus isolé au sein de la commission, a publiquement émis des doutes sur sa capacité à garantir la crédibilité du scrutin. Parallèlement, les appels se multiplient en faveur d'un report de l'élection au-delà de la date limite du 31 octobre prévue par la Constitution. L'opposition togolaise appelle à de nouvelles manifestations le mois prochain contre le régime du président Faure Gnassingbé après 2 mois de crise politique. Soulange Nyamulisa.
Éric Dupuy, porte-parole de la coalition de l'opposition, a invité les Togolais à manifester pendant 3 jours, les 7, 8 et 9 novembre à Lomé. Il a également invité les Togolais de la diaspora à participer pour dire au président Faure Gnassingbé qu'un Togolais ne devrait pas faire plus de 10 ans à la tête du pays. Il a aussi annoncé des meetings à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Le gouvernement a interdit toute manifestation en semaine, mais l'opposition refuse de se plier à cette interdiction. Le calme est revenu lundi à Lomé, après 2 jours d'échauffourée la semaine dernière à Bé, quartier de l'opposition. Les forces de sécurité sont encore présentes dans les villes de Sokodé et Bafilo, après une nouvelle arrestation dimanche d'un représentant religieux proche d'un parti d'opposition. La coalition regroupant 14 partis politiques de l'opposition demande une limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels et réclame aussi la démission du président Faure Gnassingbé à la tête du Togo depuis 2005.
C'est le 6 novembre prochain que devrait reprendre devant la CPI, la Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, des crimes commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En attendant la reprise de ce procès, Georges Ibrahim Tunkara est allé à la rencontre de quelques Ivoiriens pour recueillir leurs impressions.
Le 6 novembre prochain, les Ivoiriens seront sans doute encore nombreux devant leur petit écran pour suivre le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, un procès qui les passionne depuis son ouverture en janvier 2016. Jean-Marc Kouassi est étudiant. Il plaide pour une justice équitable.
La justice doit être équitable. C'est-à-dire que c'est le remède d'une nation. Lorsque la justice n'est pas faite là, c'est des plaies, c'est comme un volcan qui est en train de bouillir à petit feu, puis un matin, on aurait souhaité soit on règle ça comme en Afrique du Sud, on fait table rase et puis on avance. La justice là, il faut que les deux parties ou un conflit viennent s'expliquer. Quelque part, moi je salue le procès parce qu'à travers le procès, il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses que les Ivoiriens ne savaient pas, qui ne vont pas sortir.
Franck Bailly est lui fonctionnaire. Il est temps, dit-il, que ce procès prenne fin et que les Ivoiriens se retrouvent en vue d'une vraie réconciliation.
Je crois que ce procès doit s'arrêter, parce que plus on va de procès en procès, de témoin en témoin, ça peut frustrer, puis ça peut encore révolter la population. Pour une paix durable, on doit essayer de s'asseoir nous tous, pour qu'ensemble les Ivoiriens puissent connaître la vérité, la vraie vérité, et dire même s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, aujourd'hui c'est le temps du pardon, c'est le temps de la vérité, laissons tomber tout. On doit arrêter ce procès, on doit trouver un terrain d'entente entre nous les Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant.
Au mouvement ivoirien des droits humains, on n'entend pas les choses de cette oreille. Le MIDH se réjouit de l'organisation de ce procès et espère que toutes les parties seront entendues par la CPI. Maître Yacouba Doumia du MIDH.
Nous attendons aussi en fait l'action de la Cour pénale internationale par rapport aux partisans de M. Ouattara qui ont aussi commis des exactions. Nous en appelons en tout cas au bureau du procureur pour que les enquêtes qui ont été ouvertes puissent être menées à terme, que le procès de M. Gbagbo et Blé Goudé puisse arriver à terme et que nous sachions exactement. Vous avez bien vu qu'il y a des témoignages qui nous ont permis de comprendre un peu l'organisation des forces de défense et de sécurité. Et donc, d'autres procès pourraient nous permettre de comprendre l'entièreté des responsabilités dans la crise que nous avons vécue.
Rendez-vous le 6 novembre pour la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la jeunesse proche de l'ancien président ivoirien. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Plus de 2000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsé vers le Niger et le Mali, a indiqué hier Amnesty International. L'association de défense des droits de l'homme dénonce des arrestations arbitraires et des expulsions massives illégales. Le point avec Abdourahmane Dia.
La plupart des personnes arrêtées à Alger, dans sa périphérie et à Blida, ont été conduites en bus à Tamandracet, près de 2000 km plus au sud, avant d'être abandonnées du côté nigérien, explique Amnesty. L'ONG ajoute qu'au moins une centaine d'autres ont dû marcher pendant 6 heures dans le désert. Amnesty International dénonce des arrestations fondées sur un profilage ethnique et appelle les autorités algériennes à mettre un terme de toute urgence à ces expulsions. En septembre, l'Algérie avait déjà rapatrié 1 millier de Nigériens en situation irrégulière. En juin, un hashtag « Non aux Africains en Algérie » sur les réseaux sociaux avait suscité une vive polémique alimentée par des propos anti-migrants d'Ahmed Ouyahia, devenu en août Premier ministre.
L'opposition ougandaise a dénoncé aujourd'hui la détention sans charge depuis plusieurs jours de son leader Kizza Besigye et de 2 responsables du parti après une manifestation qui avait fait un mort. Les 3 hommes ont été arrêtés jeudi au lendemain d'une manifestation à Rukunguri, ville d'origine de Kizza Besigye, au cours de laquelle un manifestant avait été tué. Les manifestants entendaient protester contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président, ce qui permettrait au président Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de briguer un 6e mandat en 2021. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ne savait pas que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, voulait le nommer ambassadeur de bonne volonté. Une décision finalement annulée après une vive controverse, a affirmé aujourd'hui son porte-parole. L'OMS a annoncé la semaine dernière avoir demandé à M. Mugabe, qui dirige le Zimbabwe d'une main de fer depuis 1980, de l'aider dans sa lutte en Afrique contre les maladies non transmissibles comme les affections cardiaques ou l'asthme. Les autorités soudanaises doivent garantir un accès sans restriction aux travailleurs humanitaires, a souligné à l'AFP le commissaire européen à la gestion des crises, Christos Stylianides, au lendemain du déblocage d'une nouvelle aide de l'Union européenne pour le Soudan. Bruxelles a annoncé hier accorder 106 millions d'euros pour soulager la crise humanitaire dans ce pays où de nombreuses personnes ont été déplacées par les conflits internes et qui accueillent également des centaines de milliers de réfugiés du Soudan du Sud voisin. À Washington, il est 7h07.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le Pakistan accueille ce mardi le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui va tenter de le convaincre de lutter plus activement contre les groupes insurgés actifs sur son territoire et en Afghanistan voisin. M. Tillerson, premier haut responsable de l'administration Trump à se rendre au Pakistan, est attendu à Islamabad dans l'après-midi pour rencontrer le premier ministre Shahid Hakan Abbasi ainsi que le chef de la puissante armée pakistanaise, le général Kamal Javed Bajwa. Il devrait poursuivre sa tournée régionale en s'envolant pour l'Inde dans la soirée. Le programme nucléaire militaire nord-coréen constitue une menace grave et sans précédent pour les États-Unis. La Corée du Sud et le Japon ont affirmé aujourd'hui les ministres de la Défense des 3 pays. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et ses homologues asiatiques se sont engagés lors d'une rencontre aux Philippines à accroître les pressions diplomatiques contre Pyongyang et à renforcer leur coopération militaire. Les tensions sont particulièrement fortes depuis près de 2 ans dans la péninsule en raison de l'intensification des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, pourtant interdits par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour finir, les États-Unis ont annoncé hier la réduction de leur aide aux unités birmanes et aux officiers impliqués dans les violences contre la communauté musulmane des Rohingyas à l'origine d'un exode massif dans un communiqué du département d'État américain. Nous exprimons notre plus grande inquiétude face aux récents événements dans l'État de Rakhine et aux violents abus traumatisants que les Rohingyas et d'autres communautés ont endurés, a déclaré la porte-parole du département d'État. Et de Nawet annonçant une série de mesures punitives. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.